Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique. Richard Haddad au micro avec Pierre Henry, comme tous les lundis à 17h.
Eh bien bonjour Richard et bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver une fois encore.
Aujourd'hui au programme, la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran. Nous allons essayer de décortiquer un peu ce conflit qui a des hauts et des bas. On pensait que c'était réglé, mais pas nous. Mm. Il me semble, Pierre-Henri, qu'on avait...
Ça fait longtemps qu'on dit que ça risquait de traîner. Bon,
alors, on avait dit à ce micro que, vu l'accord signé...
Le protocole,
ouais. D'accord, ça ne pouvait que recommencer, mais on avait dit au plus tard, dans 5 ans, on était optimiste, hein. En fait, ça n'a pas duré même pas 50 jours.
Voilà.
Oui, même pas. Et on va essayer d'analyser et de comprendre pourquoi. Mmh. Et puis en même temps, on ne peut pas s'en empêcher de critiquer un peu les pseudo-spécialistes, ou parfois les spécialistes, mais qui sont parfois spécialistes, mais qui font des analyses en fonction de leurs idéologies plutôt qu'en fonction de la réalité.
Partiaux et biaisés, les spécialistes.
Ouais. Oui, oui, oui. Donc, et puis si on a un peu de temps, on va quand même dire un mot du syndicat de la magistrature et de ses amis de LFI.
Ouais.
C'est quand même, c'est
affiché et sans que ça pose véritablement de problème pour le Conseil supérieur de la magistrature, ni le garde des Sceaux.
Oui.
Voilà. Certains, en fait, ont des privilèges, c'est-à-dire qu'ils peuvent complètement outrepasser le cadre de la loi, s'en affranchir, le fouler aux pieds, mais il ne se passe pas grand-chose. D'autant que le syndicat de la magistrature a été créé dans les années 1970 avec un programme bien précis. Oui. Voilà, on en reparlera.
Il s'en cache même pas.
Alors, fin d'émission.
Cette guerre, donc... Les États-Unis donc, ont lancé cette guerre avec, à l'époque, au mois de février, à la fin, le 28 février, avec les Israéliens, avec un objectif, parce qu'on a entendu des milliers de fois des commentateurs nous expliquer que cette guerre n'avait pas d'objectif. En fait, c'est faux. Cette guerre avait un objectif bien clair des deux côtés, israéliens et américains. C'était d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Et j'en profite en disant ça pour rappeler à tous ceux qui prétendent que les accords de 2015, les accords de Vienne, signés par Obama et les Européens...
étaient de bons accords et des accords suffisants,
oui,
ce qu'on entend tout le temps.
J'entends tout le temps que c'était de très bons accords qui empêchaient l'Iran, que l'Iran respectait, etc. Ce qui est totalement faux, l'Iran n'a jamais respecté ces accords, il continuait en cachette à enrichir l'uranium et tout. Et ce n'est pas... Alors, on compare toujours avec l'Irak l'affaire pseudo-nucléaire irakien, etc.
À l'époque d'Osirak, 1981, oui, quand les Israéliens
non,
ont
non,
fait...
Non, je ne parle pas de ça. Je parle de cette affaire à l'ONU, vous savez, quand ils ont sorti...
Colin Powell.
Colin Powell.
Qui a brandi pour justifier l'invasion en 2003.
Et on pense qu'on entend des histoires sur l'Iran. Or, ce ne sont pas les Israéliens seulement et les Américains seulement qui prétendent que les accords de Vienne de 2015 n'étaient pas respectés par l'Iran.
C'est l'AIEA.
C'est l'AIEA qui est une agence mondiale dépendante de l'ONU. Et ceux qui disent ça à l'AIEA ne sont pas des Américains, ce sont plutôt des anti-Américains. On ne peut pas les soupçonner d'être proches d'Israël ou des États-Unis. On ne peut pas soupçonner l'ONU, franchement, d'être
pro-américaine.
Pro-américaine ou pro-israélienne.
Et favorable aux intérêts occidentaux.
Et donc, même cette agence qu'on ne peut pas soupçonner d'être l'ami des États-Unis et d'Israël affirme que les Iraniens ne respectaient pas l'accord, continuaient à enrichir l'uranium, et mieux encore, j'ai entendu, je ne vais pas le citer son nom, mais un journaliste connu il y a quelques jours nous dire que les agents de l'AIEA allaient en Iran et ils inspectaient. Or, eux-mêmes disent, en fait, quand on va en Iran inspecter, eh bien, on nous fait visiter ce que le régime a envie de nous faire visiter. En réalité, ce ne sont pas des agents qui peuvent circuler comme ça en Iran et aller fouiller où ils veulent. Oui, on vous fait visiter une usine, on dit, voyez, on n'enrichit rien, et vous dites oui, merci, c'est tout. Et eux-mêmes disent, c'est faux, en fait, on sait que c'est faux.
L'autre preuve, c'est que alors les experts, entre guillemets, qui vont brandir cet argument en disant « Ah, l'accord de Vienne était un bon accord », sont très souvent les mêmes que ceux qui prennent au pied de la lettre les déclarations des dirigeants iraniens.
Et du Hamas.
Et du Hamas. Mais si on écoute les dirigeants iraniens, en particulier, par exemple, le dernier en date, c'était il y a trois jours, le ministre des Affaires étrangères, qui déclare dans une interview auprès de journalistes relayés sur une chaîne YouTube, que l'enrichissement d'uranium est non négociable pour le régime iranien.
Ça
fait partie des multiples déclarations qui montrent que l'Iran s'est moqué du monde.
Mais c'est ça le plus drôle.
À commencer par Obama.
C'est ça le plus drôle dans l'affaire, c'est que ça fait des années, pendant que ses commentateurs et pendant qu'Obama et ses amis nous expliquaient que c'est un très bon accord, etc., qui est respecté,
l'Iran ne voulait pas de nucléaire militaire.
Et le régime iranien lui-même n'arrêtait pas de dire « Vous allez voir ce que vous allez voir, on va voir l'arme nucléaire ». Alors, en fait, si vous voulez, vous avez quelqu'un qui dit « J'ai les armes pour te tuer », et vous dites « Mais non, il ne les a pas », alors que lui-même prétend les avoir. Enfin, tout ça est d'un ridicule. Alors, revenons à notre sujet. Le protocole d'accord qui a été signé il y a quelques semaines. Alors vous voyez, je fais une petite parenthèse à Pierre-Henri, parce que à ce micro, il nous arrive parfois de critiquer les uns et de faire des compliments aux autres. J'entends des chefs d'État étrangers ou même français. Et on pourrait croire, nous critiquons souvent par exemple des gens qui sont fanatiquement en faveur de la Russie pour des raisons d'anti-américanisme. Ils sont en faveur fanatiquement
du tiers-monde
en général, du Hamas en particulier, par anti-judaïsme, etc. Voilà. Et donc, nous, on aurait pu paraître être...
atlantiste.
La même chose
comme
du côté...
Comme on nous le reproche souvent, d'ailleurs.
Voilà.
Atlantiste, atlanto-sioniste, et tout ce que vous voulez.
Vous analysez avec un prisme pro-américain, pro-israélien. Eh bien, ce protocole d'accord peut démontrer que ce n'est pas le cas, parce que lorsqu'il a été signé, nous l'avions critiqué, et nous avions critiqué Donald Trump pour cela. Ça veut dire que, alors, très simplement, nous n'analysons pas la chose en tant que...
En tant que groupie ou que supporter inconditionnel.
Des grands admirateurs de Donald Trump. Quand on lui fait un compliment, c'est pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Et lorsqu'il fait des choses mauvaises, eh bien, on le critique. Nous faisons pas de culte de la personnalité. Je fais allusion à certaines personnes qui, quoi que fasse Poutine, du jour au lendemain, il peut faire le contraire de ce qu'il a fait la veille. Ils vont dire c'est formidable.
Voilà, c'est un joueur d'échecs.
Voilà. Donc tout ce qu'il fait est très bien. En réalité, ce qui importe, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est.
Oui,
c'est lui.
Tout à fait.
Nous, quand on fait un compliment à un pays étranger ou à un chef d'État, c'est parce qu'on considère qu'il fait des choses qui vont dans le sens de nos intérêts français, et pas seulement. Les intérêts de l'Occident chrétien. Voilà.
Ouais.
Parce qu'il y a un Occident chrétien, on l'oublie tout le temps.
Et donc, cet Occident a des ennemis.
Et puis à l'intérieur de cet Occident chrétien, il y a des concurrents.
Ouais.
Moi, je considère les États-Unis comme un concurrent de la France. Évidemment, il n'y a pas d'amis. Je n'ai jamais prétendu que ce sont nos... Il n'y a pas d'amis en relation internationale. Il y a des concurrents et il y a des ennemis, ce qui n'est pas la même chose. Alors, les États-Unis, c'est un concurrent qui est dans l'Occident chrétien. On a toujours l'impression que les États-Unis, c'est l'Inde ou la Chine. Non, les États-Unis, ce sont des Européens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je parle à ceux qui détestent les Américains. Ce sont des Européens de l'Ouest, majoritairement, comme vous.
Ouais.
Voilà, ce qui n'est pas le cas des Russes, parce que ce sont des Orientaux mélangés à l'Asie, et c'est pas la même culture. Bon, passons. En tout cas, ce sont des concurrents, et puis les ennemis, bien, c'est des régimes islamistes tels que l'Iran ou d'autres. Voilà. Et donc, c'est un petit rappel comme ça pour dire que nous avions critiqué ce protocole d'accord. Moi, personnellement, j'ai considéré que Donald Trump faisait n'importe quoi. Et après,
ça n'allait pas tenir la route de toute façon.
Ça n'allait pas tenir.
Preuve en est.
Voilà, preuve en est. Il faut dire qu'il a envoyé négocier avec les Iraniens des promoteurs immobiliers qui connaissent rien ni à l'Iran, ni à l'islam, ni à tout ça.
Et qui ont pensé en gros qu'un bon deal allait forcément appâter les Iraniens.
Parce qu'ils étaient pressés. Alors c'est là où on essaie d'expliquer. C'est qu'ils étaient pressés. C'est ça le défaut de Donald Trump. Son premier défaut, c'est que, qui a une qualité aussi, c'est qu'il n'aime pas les guerres. Mais ça, c'est très bien de ne pas aimer les guerres. Mais quand on doit en faire une, parce qu'on est obligé d'en faire une...
Il faut être prêt à aller jusqu'au bout.
Il faut la faire.
Et il faut la terminer.
Il faut la terminer. Alors, faire des guerres en prévoyant à l'avance qu'il devrait y avoir zéro mort et qu'elle doit être terminée le plus vite possible, bah, autant ne pas la faire.
Autant ne pas la faire.
Ça sert à rien. Donc, il était pressé. Il l'a montré en plus, qui est un peu un cadeau donné à ses adversaires, parce que quand on est pressé en négociation, il ne faut jamais le montrer.
Adversaires qui en ont profité. Et bien tous sûr. Ceux qui étaient opposés justement à l'aboutissement de ce processus en fait, de négociation, eh bien, ont fait tout ce qu'il fallait pour en saborder les discussions et pour tirer dans les pattes des négociateurs. En particulier Galibaf, qui est accusé des pires maux par les plus durs dans le régime, qui se tirent dans les pattes les uns les autres. Et puis, ils ont recommencé très rapidement, à la fois des actes d'agression vis-à-vis de transporteurs dans le Golfe, dans le détroit d'Ormuz.
C'est ça le comble, c'est que ce sont eux qui ont, cette fois-ci... Alors, la guerre a été déclenchée par les Américains et les Israéliens, et ce sont les Iraniens qui ont bafoué le protocole d'accord
complètement.
En attaquant. Parce que... Parce qu'ils réinterprètent un article qui est mal écrit, etc. Mais dans la réalité, vous venez de mettre le point dessus, Pierre-Henri, c'est que, parce que là aussi, on entend tous les jours, on a l'impression que l'Iran, c'est un truc, c'est un pays puissant, solide. En fait, on passe notre temps à surestimer d'abord la puissance iranienne. Mm. Ce n'est pas l'Iran qui est puissant, l'Iran est extrêmement faible, c'est son adversaire... à savoir en l'occurrence les États-Unis, qui ne va pas jusqu'au bout, qui le laisse faire. Il n'est puissant que par la faiblesse de son adversaire, faiblesse non justifiée d'ailleurs, parce que faiblesse pour des raisons de cours de bourse, pour des raisons de résultats économiques à court terme, ou pour des raisons d'élections locales.
Oui, ou de, comme vous l'avez dit avant, ou de réticence à la guerre. Hein.
C'est ça.
Et ça, c'est plus idéologico-religieux sans doute chez Trump, plus qu'on ne veut se l'avouer. C'est pas que de l'économique.
Bien sûr.
Mais forcément, ça l'entrave et ça entrave ses décisions. Donc là, il a été obligé d'y revenir parce que les Iraniens, ou certains Iraniens, ont tout fait pour le faire revenir dans les hostilités.
Oui, oui. Alors justement, ils ont tout fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je disais, on surestime la puissance donc iranienne, qui est un pays extrêmement faible, mais aussi on surestime l'unité des Iraniens, parce que dans le régime actuel est très très divisé.
Évidemment.
Et il faut pas négliger cette cause dans la relance de la guerre, parce que je peux vous assurer que le ministre des Affaires étrangères, par exemple, n'y était pas favorable. En fait, ce sont les gardiens de la. Bon, il y a plusieurs clans. Et il y a un clan qui est en faveur de la relance de la guerre, et c'est lui qui a attaqué les bateaux qui étaient dans le détroit d'Ormuz, alors qu'il y en a d'autres, et pas des moindres, qui étaient hostiles à ça. Donc oui. En fait, ils se font la guerre entre eux. Et il y a celui qui a la main, comme on dit, pour lancer une guerre, qui torpille, entre guillemets, un peu son
tout le processus
son
de négociation.
Qui a signé, c'est-à-dire ceux qui ont signé le protocole sont détestés par ceux qui relancent la guerre, et puis ils font ça pour torpiller leur travail.
Et on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est une espèce de drôle de guerre, puisque à la fois vous avez le conflit en cours et les négociations en cours simultanément.
Oui.
Alors que normalement, les négociations suivent au moins un cessez-le-feu. Là, c'est simultané, c'est-à-dire qu'ils se tapent. Ils tapent dessus, enfin les Américains tapent et les Iraniens tapent sur les voisins. Et d'ailleurs, on va en parler parce que l'attitude des voisins arabes sunnites, quand même, mérite qu'on s'interroge dessus.
Oui, oui. Alors avant de parler des monarchies du Golfe sunnites, juste une petite conclusion. Donc, la division des Iraniens, leur faiblesse, parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est balancer des missiles. Et encore une fois, c'est impressionnant quand il y a un missile qui tombe sur une base américaine, il y a deux morts. Mais enfin, comme le rappellent souvent, en Jordanie, comme le rappellent souvent d'anciens militaires, et pas des moindres, sur nos plateaux télévision, les guerres, ça fait des morts. Donc deux morts, maintenant il y en a trois, on dit oh là là.
Un porté disparu
enfin,
en Irak.
Écoutez, il y a eu des centaines, voire des milliers de morts en Iran, et on vous dit ah non, les États-Unis ont perdu, ils ont eu trois morts. Alors, ce n'est pas Washington, je le répète à ce micro, comme je l'ai déjà dit, qui est détruit. C'est Téhéran qui est à moitié détruit. Ce n'est pas les États-Unis qui ont leurs infrastructures par terre, c'est plutôt l'Iran.
C'est l'Iran, voilà.
Ce n'est pas les États-Unis qui ne peuvent plus payer les salaires de leurs fonctionnaires. C'est l'Iran, parce que vous savez que les salaires ne sont plus payés en Iran.
Et qui a une inflation à je ne sais pas combien de milliers de pourcents. Hein.
Voilà.
Parce que donc, le rial ne vaut plus
et
rien.
Et malgré tout ça, on vous dit « Ah non, mais l'Iran a gagné. » Enfin. Parfois, on se dit, mais on marche sur la tête.
On l'entend sur les plateaux de télévision français, on l'entend quand même petit peu moins qu'au début des hostilités en mars, avril, mai.
Oui. En tout cas, je peux vous dire que là, sans l'aide des Chinois et des Russes, ils ne pourraient même plus envoyer de missiles, en réalité. Et puis, ils envoient des missiles qui sont la plupart du temps interceptés, comme c'était le cas au début de la guerre. Il y en a qui tombent, ça fait quelques dégâts. Enfin, c'est sans commune mesure de ce que subissent eux sur le plan militaire et civil même. Alors il y a autre chose, vous parliez des monarchies
de l'attitude des monarchies du Golfe, qui n'arrêtent pas d'être frappées. Donc là, ces derniers jours, il y a eu
Bahreïn. Là, on voit bien qu'ils n'ont pas d'armée, d'ailleurs.
Il y a eu le Koweït, il y a eu la Jordanie, il y a eu à nouveau l'Irak, ce qui est un cas un petit peu à part. L'attitude de l'Arabie Saoudite est quand même aussi très particulière. Oui.
Parce qu'à force, elle n'a pas été touchée, vous avez remarqué.
Elle n'a pas été touchée, mais ils à force de tirer les ficelles dans tous les sens, et ils finissent par j'ai l'impression qu'ils finissent par se prendre les pieds dans leurs propres ficelles, en essayant d'être un petit peu, vous savez, au-dessus de la mêlée, et de tirer les ficelles à la fois chez les proxys de l'Iran, en Iran directement, auprès des États-Unis, auprès d'Israël.
Ah, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. L'Arabie Saoudite a été, ils ont envoyé quelqu'un pour l'enterrement de Khamenei.
Oui.
Et il se dit qu'ils ont dû négocier en payant les Iraniens, d'une part.
Si je ne m'abuse, tout le monde l'a fait, sauf les Émirats.
Absolument. Absolument.
Les Émirats, ce sont les seuls du Golfe.
Le Koweït non plus. Ouais. Le Koweït non plus. Il semblerait. Alors, en dehors du fait de payer, il y a un autre facteur que l'on oublie, c'est que l'Arabie Saoudite a un accord de défense avec le Pakistan. Qui est. Vous savez que le Pakistan détient l'arme nucléaire. Il a un accord de défense avec l'Arabie Saoudite, qui a financé. Le projet nucléaire pakistanais. Sans l'Arabie Saoudite, le Pakistan n'a pas d'armes nucléaires. Ce sont les Saoudiens qui l'ont financé. Si vous voulez, le Pakistan, c'est la puissance, c'est le nombre. D'ailleurs, l'armée saoudienne, il n'y a pas beaucoup de Saoudiens dedans. Ce sont ou des Yéménites naturalisés saoudiens ou beaucoup de Pakistanais, beaucoup de mercenaires pakistanais. En réalité, le coffre-fort, c'est l'Arabie Saoudite et la masse et le cerveau, c'est le Pakistan. Mais sans l'Arabie Saoudite, le Pakistan ne peut pas faire ce qu'il fait, ne peut pas avoir la puissance qu'il a. Et d'où les Saoudiens s'appuient sur le Pakistan qu'ils financent, qu'ils payent, en fait, c'est comme un mercenaire, pour les protéger. Et donc, cet accord de paix, on l'a oublié. Enfin, pas un accord de paix, pardon. Cet accord de défense, on l'a un peu oublié. Mais il faut pas le négliger parce que pour l'Iran, s'ils attaquent... Alors, jusqu'à maintenant, ils avaient un peu envoyé quelques missiles sur des bases américaines. Mais s'ils attaquent des cibles civiles saoudiennes ou des cibles militaires saoudiennes, obligatoirement, le Pakistan, de par le traité militaire qu'ils ont avec l'Arabie Saoudite, est obligé de venir défendre...
De prêter assistance.
Et l'Iran, je ne pense pas qu'ils aient envie de se frotter à une puissance nucléaire voisine. On va faire une pause pour le
Bobino, et on se retrouve tout de suite.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
On reprend, donc voilà, donc c'était juste pour l'Arabie Saoudite pour préciser ce petit
détail. Parallèlement à ça, je persiste à penser que la réaction des autres pétromonarchies du Golfe est particulièrement mesurée, voire faible, par rapport, eu égard au nombre d'attaques iraniennes qu'ils ont subies depuis mars.
Vous avez le Qatar qui reçoit des missiles sur son territoire, et au même moment, pendant que les missiles tombent chez lui, il envoie un émissaire en Iran. Non, je ne peux pas appeler ça négocier. Il envoie mendier, demander de la comment dire, la... demander aux Iraniens un peu d'indulgence, vous voyez.
Oui.
Donc, officiellement, il va négocier. Mais enfin, non, en fait, ce sont... D'abord, le Qatar n'a pas d'armée. Donc, tous ces pays ont compté...
Bahreïn encore moins, le Koweït encore moins.
C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et donc, tous ces pays ont compté sur les Américains pour les protéger. Et ils l'ont payé. Ils payent. Hein. Et donc, ils reçoivent des bases américaines, etc. Et malheureusement, pour les Américains, ils sont plus crédibles. Hein. En fait... Je ne sais plus qui a dit récemment que ça va poser un problème pour le futur. Certes, moi je suis tout à fait d'accord, c'est que les Arabes du Golfe ont compris que leur alliance avec les Américains ne les protège pas.
Il y avait des trous dans le parapluie.
Voilà, et donc on dit maintenant que ça va poser un problème pour les Américains, un problème de crédibilité. Mais je rappelle juste, et que les Arabes vont se tourner voir ailleurs. Ils vont se tourner auprès de qui?
Parce que
les Russes, c'est pire que les Américains.
C'est
parce
pire.
Que tous ceux qui ont des traités militaires avec les Russes, les Arméniens et d'autres...
Ça marche pas.
On a vu
abandonner
que
en race campagne.
Bachar el-Assad, ça n'a pas duré longtemps. Je ris un peu parce que...
Ils l'ont accueilli à Moscou. C'était sympa quand même.
C'est sympa.
C'est un peu léger comme parapluie militaire.
Ils reçoivent tous les ex-dictateurs qu'ils soutenaient.
Et qu'ils ont abandonnés en race campagne.
Voilà. comme excuse, ils les reçoivent chez eux dans une ville. Là. Super, c'est génial. Et donc, les Russes non plus ne sont pas fiables. Alors, les Chinois, c'est encore pire.
Ah oui,
les Chinois, c'est encore pire, parce que les Chinois, ils viennent, ils vous siphonnent vos...
toutes les ressources,
vos richesses,
tout ce dont
ils s'en vont. Complètement. Voilà. Donc, qui va protéger les Arabes du Golfe?
Bah, c'est pas Israël,
leur chéquier.
C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont... Alors, oui, mais il y a quand même l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, en plus d'avoir le chéquier, alors, je sais pas s'ils savent bien s'en servir, mais ils ont quand même un petit peu plus de force militaire que le Qatar ou le Bahreïn.
Bon, la première puissance militaire du Golfe, qui est... pas grand-chose par rapport aux puissances...
C'est les Émirats, vous allez me dire.
Oui, par rapport à l'Iran, la Turquie et Israël, qui sont les trois grands... Israël encore plus. Hein.
Encore plus, oui.
Israël est un peu à part. Hein. C'est vraiment une très grande puissance.
Déjà, c'est une puissance nucléaire.
Après Israël...
C'est une puissance conventionnelle.
Voilà. Il y a la Turquie et l'Iran, en mode conventionnel. Et l'Iran, et encore, c'est l'Iran avant la guerre. Maintenant, la Turquie est beaucoup plus puissante que l'Iran. Les Émirats, c'est loin derrière, bien sûr. C'est rien par rapport... Je veux dire, les Émirats, ma comparaison, c'est avec les autres pays du Golfe. Dans ce paquet des pays du Golfe qui sont Arabie Saoudite, Oman, Bahreïn, Qatar, Koweït, les Émirats sont un peu à part. Ils ont une vraie armée, etc. Mais alors l'Arabie Saoudite... C'est une plaisanterie. L'armée saoudienne, elle peut rien faire. Il y a quelques mercenaires pakistanais. Ils ont beaucoup d'armes qu'ils achètent très chères, qu'ils ne savent même pas les utiliser.
Voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'ils ont du matériel quand même. Savent-ils l'utiliser?
L'armée saoudienne est incapable de faire quoi que ce soit. Ils n'ont même pas pu gagner leur guerre avec le Yémen, qui est un
pays
qui n'est pas grand-chose. Il faut savoir ce que c'est. Les outils du Yémen, ce n'est pas grand-chose. Militairement, ils n'ont même pas réussi. Parce que c'est l'armée saoudienne, c'est rien du tout. Donc tous ces pays, en fait, n'ont pas d'armée et n'en auront jamais. Parce que ce n'est pas dans leur culture, ce ne sont pas des combattants. Ces gens-là ne travaillent même pas. Vous savez, ils ne travaillent pas. C'est la culture bédouine, ils ne travaillent pas, c'est des dilettantes.
Oui, le taux de chômage dans ces pays-là est absolument hallucinant. Et d'ailleurs, en effet, ce sont des gens d'importation qui travaillent, ce sont des immigrés. Hein.
Donc ils sont riches de leur pétrole,
sous-continent indien.
Et ils ne travaillent pas. Et ils ne veulent pas se battre non plus. Donc en fait, ils vont payer à chaque fois. Donc là, à moyen terme, tout le monde réfléchit, et ça va se faire très vite, à des oléoducs qui partiraient de ces pays vers la Méditerranée en traversant la Jordanie, la Syrie, etc. En fait, on va neutraliser le détroit d'Ormuz. C'est pour ça que les Iraniens, à moyen terme, ils sont forcément perdants. Parce qu'ils ont dit que le détroit d'Ormuz, c'est leur arme nucléaire. Oui, enfin, c'est une arme qui est limitée dans le temps. Hein.
Mais
dans 2-3 ans, il n'y a plus d'arme nucléaire.
On en revient à ce que nous avions dit il y a quelques semaines maintenant au sujet du détroit d'Ormuz. Il est stupéfiant à la première lecture, de penser que depuis 1979, des voies de contournement plus sérieuses n'aient pas été mises en place, c'est-à-dire des oléoducs qui couperaient tout simplement le fond du golfe Persique pour déboucher dans l'océan Indien, il en existe, mais qui n'ont pas du tout la capacité, c'est-à-dire à la fois la capacité en volume transporté, et puis sur les terminaux de départ et d'arrivée, de chinter, si je puis dire, le détroit d'Ormuz. Mais si ça a été fait, les pays de l'OPEP ont une immense responsabilité là-dedans, parce que ça les arrangeait au niveau des prix, de s'entendre avec l'Iran de Khomeini.
Maintenant,
et de ses successeurs.
En deux ans et demi, ça peut être fait. Alors, il y en a quelques-uns qui donnent sur la mer Rouge, donc on peut remonter vers Suez, mais il va y en avoir qui vont passer par la Syrie et la Turquie, etc. Donc, à moyen terme, en deux ans et demi, trois ans maximum, le détroit d'Ormuz n'est plus une arme pour qui que ce soit. Voilà.
Souhaitons-le.
En tout cas, c'est ce qui
ça dépendra quand même de l'attitude, à la fois bien évidemment des grands consortiums mondiaux, mais des pétromonarchies. Il faudrait qu'elles changent un petit peu leur braquet et qu'elles changent de leurs erreurs qu'elles commettent depuis 79. Mais bon.
Il nous reste une minute et demie.
Ouais.
On peut
un mot du syndicat
mot
de la magistrature.
Du syndicat de la magistrature et des responsabilités de tous ceux qui le critiquent. Alors, ils sont pas nombreux, hein, mais j'ai entendu Monsieur Retailleau,
oui, quand même,
monter au créneau, mais. Qui a donné le pouvoir à ces juges? Qui a voté toutes les lois qui donnaient le pouvoir à ces juges, Pierre-Henri?
Rappelons
un peu ce qu'il en est.
Non, très rapidement, un juge qui est porte-parole du syndicat de la magistrature, donc qui est un syndicat d'extrême-gauche très militant depuis sa création dans les années 70, et donc ce juge, en cour d'appel à Paris, a participé à une conférence de presse du groupe LFI à l'Assemblée nationale après le vote de la loi qui instaure le présupposé de légitime défense, la présomption, pardon, légitime défense pour les policiers qui font usage, enfin les agents de la force publique qui font usage de leur arme. Et donc, ce juge et dans une conférence de presse de LFI, donc en fait il prend parti pour un parti politique, et appelle d'ailleurs à manifester lors de manifestations qui sont prévues en septembre prochain contre cette loi qu'il qualifie de fasciste, raciste, et j'en passe. Donc oui, bien évidemment, peut-on continuer à rendre la justice en toute neutralité quand on est un militant politique affiché? Bah, bien évidemment, on a la réponse depuis longtemps, c'est non, mais il est sûr et certain que ceux qui critiquent comme M. Retailleau n'ont jamais rien fait pour casser le pouvoir de ces syndicats de gauche et d'extrême gauche.
Ils ont même voté des lois qui ne permettent plus aux gardes des Sceaux de révoquer ce genre de juge.
Tout à fait. On arrive à la fin de cette émission et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Merci à tous.
Merci, à bientôt.